لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Donc chapitre, il ne faut pas égorger, enfin sacrifier dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Donc on a vu précédemment le chapitre qui interdit le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Et là, ça montre que les sacrifices qui sont faits pour Allah, ils ne peuvent pas être faits dans un endroit où il y a des sacrifices qui sont faits pour autre qu'Allah. Il dit dans le commentaire, « La nafiya wa yahtamilu annaha linnahi wa stadharahu sharih ay la yajuzu dhabhu lillahi bimakanin wa idda li dhabhi li ghayrillah. » Donc le titre du chapitre, ça veut dire « Il est interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. » لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان. Donc parce que quand on fait ça, il y a une ressemblance apparente avec les polythéistes. وهو منهي عنه كما في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. Et ça c'est interdit par rapport au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et donc celui qui va égorger, faire son sacrifice dans l'endroit où les polythéistes font leur sacrifice, il est tombé dans la ressemblance. وَلَوْ قَصَدَ الذَّابِحُ وَجْهَ اللَّهِ لِأَنَّهُ إِحْيَاءٌ لِلْمَحَلِّ الشِّرْكِ وَتَعْظِيمٌ لَهُ. Même si celui qui fait son sacrifice, il cherche par cela la satisfaction d'Allah. Parce que c'est faire revivre un endroit polythéiste. Et c'est-à-dire, c'est quelque part, vénérer, pas vénérer, mais ta'zim, c'est-à-dire, c'est montrer un certain respect envers cet endroit qui normalement doit être rabaissé. فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة. Et aussi, si la personne elle fait ça, ça sera un moyen pour que le shirk revienne. Or, سد الذرائع, c'est-à-dire le fait de fermer la porte aux interdits, c'est un des points les plus importants de la loi islamique. C'est ce qu'il dit le shirk ici. Donc, par exemple, Allah il a interdit la fornication. Mais il a dit la taqrabu zina, n'approchez pas zina. Donc on appelle ça saddu dhara'i', fermer les portes à tout ce qui amène au péché. Donc c'est pour ça Allah il a interdit de regarder, de s'isoler avec la femme, que la femme elle voyage seule, etc. etc.
بل لا يجوز بعد عن الشرك ومواضع الغضب وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم فأزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ الإسلام قدس الله روحه.
Donc il dit aussi il faut éviter ça, c'est pour s'éloigner du polythéisme et des endroits où tombe la colère d'Allah. Et il dit donc les gens du Najd comme autres que eux, ils égorgeaient pour les djinns en leur demandant la guérison pour leurs malades. Et ils réservaient pour leur sacrifice, pour les djinns,
c'est un petit peu ça,
un endroit spécial qui était réservé à ça. Et ça s'est arrêté grâce à la da'wah de Cheikh l'Islam. Donc c'est qui a voulu ici par Cheikh l'Islam, hein? Voilà, c'était une question piège. Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc Najd, c'est la région de Riyad et tout ça. Wa qawlillahi ta'ala la taqum fiha abada al-ayah. Donc ensuite il a cité un verset dans Surat Tauba, La taqum fihi abada, ne t'y lève jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pas, il a cité qu'un morceau du verset, donc ce qui a fait l'explication, il dit Ey, la tusalli fi masjid al-dirar, wa kana banahu jama'atu min al-munafiqin, madarratan li masjid al-quba, wa kufran billahi wa rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce verset il veut dire c'est une interdiction au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la salat dans ce qu'on appelle Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar, donc comme il dit ici, c'est une mosquée qui avait été construite par un groupe des hypocrites. Comme on dit les hypocrites, je rappelle, al-Munafiqin, quand on parle dans la religion, c'est ceux qui font semblant d'être musulmans alors qu'ils sont mécréants à l'intérieur. Et ils ont fait ça donc pour nuire et pour concurrencer la mosquée de Quba. Et aussi par mécréance envers Allah et son prophète. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Et Allah il a dit dans le Coran وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, c'est-à-dire et pour aider celui qui auparavant avait fait la guerre à Allah et à son messager. C'est qui a voulu parler? Il dit وهو أبو عمرو الفاسق,
c'était Abu Amr al-Fasiq, c'était en fait un chrétien qui avait fait semblant de se convertir à l'islam, et il était connu pour le fait de chercher les ennuis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته. Donc ils ont construit cette mosquée avant la bataille de Tabouk, avant que le prophète صلى الله عليه وسلم parte à Tabouk, et ils lui ont demandé de prier dans cette mosquée, pas pour inaugurer, mais c'est-à-dire pour avoir la baraka du fait que le prophète il ait prié dans cette mosquée. وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية. Et ils ont dit au prophète, on a construit cette mosquée pour les pauvres, pour les faibles, etc. Pour que les gens ils aient où dormir quand il fait froid. فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. Donc le prophète il s'est excusé. Donc à ce moment-là il était à Médine. Mais il a dit on va voyager. Mais إن شاء الله quand on reviendra. C'est-à-dire quand on reviendra on priera. Je prierai dans votre mosquée. فلما قفل ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه وحرقه قبل قدومه. Et lorsque le prophète il était sur le retour pour Médine de la bataille de Tabouk, avant qu'il arrive à Médine, Allah lui a révélé donc les versets dans sourate Tawbah pour lui révéler qu'en fait cette mosquée elle avait été construite par des hypocrites avec une mauvaise intention. Et donc le prophète il a envoyé des gens pour la détruire et pour la brûler.
ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله.
Donc il dit, donc suivez bien le raisonnement, Allah donc il a, donc quel est le rapport entre ce verset donc qui concerne l'histoire avec la mosquée et le chapitre comme quoi il est interdit d'égorger, de sacrifier pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. Donc il dit c'est que cette mosquée elle avait été construite sur la désobéissance et sur la mécréance, donc c'était un endroit en fait, un endroit de la colère, c'est-à-dire un endroit qui amène la colère d'Allah. Donc Allah il a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dedans à cause de cette cause. Cette cause c'était quoi? C'était un endroit de kufr et de péché. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui il prie? Il prie pour Allah. Donc il lui a interdit de prier pour Allah dans cet endroit qui avait été construit pour la mécréance et les péchés. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. Donc il dit donc ainsi de la même façon, les endroits qui ont été préparés pour sacrifier pour autre qu'Allah, eh ben on ne peut pas y égorger et sacrifier les bêtes pour Allah. De la même façon que cet endroit qui avait été construit pour la mécréance, le prophète il n'avait pas le droit d'y prier pour Allah. Vous avez compris la comparaison? Il dit وَهَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ يُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي. Il dit ça c'est un qiyas. Un qiyas c'est-à-dire une comparaison qui est authentique. C'est-à-dire il a, c'est un vrai qiyas. Qui est appuyé par le hadith qui va venir dans le chapitre. Wa qawlihi la masjidun ussisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fi. Donc pour ce qui concerne le qiyas donc ça fait partie des preuves dans la législation islamique avec le Coran, la Sunna, l'ijma', la parole des sahaba et le qiyas, c'est ça les preuves de la religion. Donc le qiyas en fait comment ça marche? On a une chose sur laquelle la religion elle a donné un jugement pour une raison précise. Donc retenez bien, il y a une chose avec un jugement pour une raison précise. C'est-à-dire le prophète quand il a interdit la chose, il a dit que c'était pour telle raison. Donc on a une chose connue avec son jugement. Son jugement ça veut dire haram, haram, halal, wajib ou mustahab ou makruh. Et on a l'illa. L'illa ça veut dire pourquoi il est mustahab ou makruh ou haram, etc. Et maintenant on a une chose dont le prophète il n'a pas parlé et Allah il n'en a pas parlé, une chose nouvelle, parce que quand l'islam il s'est répandu, les sahaba et les tabi'in ils étaient confrontés donc à des questions nouvelles, des vêtements nouveaux, des habitudes nouvelles, des alimentations nouvelles, et on retrouve par exemple dans une nouvelle chose la illa, c'est-à-dire la cause qui a rendu la première chose haram ou halal ou mustahab ou etc. Donc qu'est-ce qu'il faut les ulama? Ils font un qiyas, c'est-à-dire qu'ils ils assimilent cette chose à l'autre dont la religion a parlé. Pour quel réseau donc? Pour susuer. Non, pour la raison. C'est quoi le point commun? Le point commun, c'est l'illa, c'est la cause du jugement. Donc un exemple, ils disent par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui donc, qui tue son père, il ne peut pas hériter de son père. Donc la raison elle n'est pas expliquée dans le hadith, mais la raison elle est claire. C'est parce que s'il tue son père, il y a de fortes raisons de penser qu'il a fait ça exprès pour avoir l'argent. Donc pour éviter de lui faire gagner ce qu'il cherchait, on lui prive de son héritage. Donc les ulama, ils ont dit de la même façon, si quelqu'un il fait un testament pour un autre, et cet autre à qui est destiné le testament, il tue la personne du testament, il y a de fortes raisons de penser qu'il l'a tué, c'est pour avoir l'argent du testament. Donc on lui interdit, alors qu'il n'y a aucun hadith qui parle de ça. La preuve, c'est le qiyas. Donc voilà, c'est pour parler du qiyas vite fait. Il dit, وقوله لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى. Donc ensuite, dans la suite du verset, Allah il dit, c'est-à-dire la traduction, une mosquée qui a été construite sur at-taqwa, donc là, sur la piété, depuis le premier jour, est plus à même que tu pries dedans, est plus digne que tu pries dedans. Donc c'est-à-dire qu'ici, Allah il a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prier dans la mosquée de Quba, parce que c'est une mosquée qui a été construite sur la piété. وَهَيَّ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et sur l'obéissance d'Allah et son messager. وَجَمَعَنْ لِكَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ. Et qui a été construite aussi pour réunir les musulmans. وَمَعْقَلًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. Et pour, comme un lieu de repère et de regroupement pour les musulmans et les gens d'islam. وَكَانَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهُ وَفِي الصَّحِيحِ صَلَاتٌ فِي مَسْجِدِ قُبَى كَعُمْرَةٍ. Et le prophète, il visitait la mosquée de Quba, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit dans le hadith sahih, une prière, une salat dans la mosquée de Quba est équivalent à une umra, c'est-à-dire dans la récompense. وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمارى فيه رجلان فقال صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا رواه مسلم. Et certains ulama, ils ont dit la mosquée qui est citée dans le verset, c'est pas la mosquée de Quba mais la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Puisque dans Sahih Muslim, il est rapporté que deux hommes se disputaient. Un, il disait c'est telle mosquée. Et l'autre, il disait, c'est la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tranché en disant, c'est ma mosquée, qui est voulu dans le verset. Donc, Cheikh, il dit, وَلَا مُنَافَتْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ بِهَذَا الْوَصْفِ قَدْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَمَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَكُونَ بِهَذِي صِفَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. Et en vérité, ça ne se contredit pas. Parce que si ce qui est voulu par là, c'est la mosquée de Quba, parce qu'elle a été construite sur la piété dès le premier jour, bah, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore plus à même de mériter qu'on prie dedans, puisqu'elle a été construite aussi sur la piété depuis le premier jour. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به قالوا ما نعلم إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا. Donc dans la suite du verset, Allah il a dit, il s'y trouve des hommes, c'est-à-dire dans cette mosquée, qui aiment se purifier. Donc ça c'est une thèse qu'il y a d'Allah pour les gens de Quba. Et donc dans le hadith, il a été rapporté, dans le sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir les gens de Quba, il leur a dit, c'est quoi cette purification dont Allah a parlé et par laquelle il vous a vanté? Et ils ont dit, on avait des voisins juifs et on savait qu'ils se lavaient quand ils allaient aux toilettes, et donc nous aussi on s'est lavé quand on faisait nos besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est ça, c'est par ça qu'Allah il vous a vanté, alors allez comme vous, c'est-à-dire continuez à faire ça.
Wallahu yuhibbu al-mutahhirin alladhina yatanazzahuna min al-qadarati wa al-najasat ba'dama yatatahharuna min awdari ash-shirk wa aqdarihi.
Et Allah, donc à la fin du verset, Allah aime ceux qui se purifient, c'est-à-dire qu'il se purifie et qu'il s'écarte des saletés et des impuretés. Donc différence entre les saletés et les impuretés. Les saletés, par exemple, comme le, Le crachat, par exemple, c'est une saleté, mais ce n'est pas une impureté. Et les impuretés, et avant cela, il se purifie du polythéisme. Ensuite, il dit « Thabit ibn al-Dhahhak, قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Donc dans le hadith, un compagnon il rapporte que un homme avait fait le vœu d'égorger, donc de sacrifier plutôt, un chameau dans un endroit qui s'appelait Bouana. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, est-ce qu'il y avait dans cet endroit une idole de la Jahiliya qui était adorée? C'est-à-dire la période avant l'islam. Ils ont dit non. Le prophète, il leur a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait une fête, c'est-à-dire un regroupement, une fête, parmi les fêtes des polythéistes? Ils ont dit non. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors accomplis ton vœu. Parce que il n'y a pas de vœu, il ne faut pas accomplir un vœu qui concerne une désobéissance à Allah, ou alors un vœu qui concerne ce que l'être humain ne possède pas. Hadith est dans Abu Daoud. Donc, dans l'explication, il dit Al-Wathanu yatanawalu kulla ma'boudin min dunillahi min suratin au qabr, wa fi riwayatin au nasab. Donc on avait déjà expliqué ça, que Al-Wathan, c'est un terme qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'il ait une image ou non. C'est-à-dire Al-Wathan, ça englobe Al-Asnam. Donc Al-Sanam, c'est tout ce qui est adoré comme idole, avec une forme animale ou des yeux, etc. Et Al-Wathan, c'est plus large. Donc ça contient Al-Sanam, et aussi comme les tombes, les mausolées, les arbres qui sont adorés en dehors d'Allah, etc. قال المصنف وفيه المنع منه إذا وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله وهو الشاهد من الحديث للترجمة. Donc il dit, Mohammed ibn Abd al-Wahhab il a dit par rapport à ce hadith, ça montre qu'il est interdit donc de sacrifier une bête à un endroit où il y avait une idole qui était adorée, même si cette idole elle est plus dans cet endroit, elle n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il a mis ce hadith dans ce chapitre. لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. Parce qu'il dit dans certaines versions du hadith, il est dit que cet homme il avait demandé au prophète صلى الله عليه وسلم lors de حجة الوداع. Donc Hujjatul Wada', c'est à la fin de la vie du prophète. Et à la fin de la vie du prophète, le prophète il avait fait détruire les idoles. Donc ça veut dire l'idole elle n'existait plus à l'endroit où l'homme il voulait sacrifier. Donc ça veut dire que même si l'idole elle n'existe plus, mais si avant c'était un endroit où ils le faisaient, où ils adoraient une idole, il ne faut pas sacrifier à cet endroit, même si l'idole n'existe plus. Ensuite il dit قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'il y avait à cet endroit un Eid, donc il va expliquer, il dit قال الشيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. Donc il dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah il a dit العيد c'est un nom qui désigne un regroupement qui se répète et qui est une habitude. عيد إما بعود سنة أو شهر أو الأسبوع. Que ce soit tous les ans par exemple, ou alors les gens ils se regroupent toutes les semaines, ou alors tous les mois. فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعه ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا. Et العيد, le mot العيد, ça contient plusieurs choses. Le fait que ce soit un jour qui se répète, comme par exemple le jour de l'Aïd des musulmans, Yawm al-Fitr, ou alors Yawm al-Jumu'ah aussi. Le prophète il a dit que c'était un Aïd. Le fait qu'il y ait un regroupement de gens, ça c'est un des trucs qui fait que cette chose s'appelle Aïd. Le fait qu'il y ait certaines actions que les gens y font, que ce soit des habitudes ou des adorations. Et il dit, des fois l'Aïd, ça peut être spécialement pour un endroit précis, etc. Qal al-Musannif, donc il faut bien comprendre ça. Un Aïd, en fait, dans la langue arabe, chez les gens, qu'est-ce qui s'appelle un Aïd? C'est le fait que les gens ils se regroupent, par exemple, tous les ans ou tous les mois à telle date, ils se regroupent là pour faire telle et telle chose. Ça s'appelle un Aïd. Ça aidera à comprendre le hadith plus tard dans Kitab Tawhid, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de ma tombe un Aïd. قال المصنف وفيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. Donc là il a tiré une petite faïda. Mohamed ibn Abd al-Wahhab, il a dit, ça montre que le mufti, il peut poser des questions et demander des détails s'il a besoin pour faire sa fatwa. Parce que là le prophète, il n'a pas répondu directement, il a posé des questions avant de répondre.
والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله.
Et aussi on profite du hadith qu'il est interdit d'accomplir un vœu dans un endroit qui est un endroit habituel des gens d'avant l'islam, donc où il y avait des adorations ou des Eid des gens d'avant l'islam, même si ça n'existe plus, c'est-à-dire dans cet endroit.
قال الشارح وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك.
Et Sulayman ibn Abdullah, il a dit, ça montre que ce hadith, il nous montre ce qu'on appelle saddu dhari'a, le fait de fermer les portes. Donc l'islam, il n'a pas seulement interdit le polythéisme, mais il a fermé les portes au polythéisme. Puisque le prophète, il a interdit d'aller sacrifier pour Allah dans un endroit qui est un endroit à la base de polythéisme. Pourquoi? C'est pour éviter que le polythéisme y revienne. Et aussi le fait de délaisser la ressemblance aux non-musulmans. Parce qu'aller dans leur endroit, c'est leur ressembler pour la religion. Et aussi empêcher tout ce qui est un moyen de ressembler aux non-musulmans.
فَإِنْ قِيلْ لِمَ جُعِلَ مَحَلَّ اللَّاتِ بِالطَّائِفِ مَسْجِدًا.
قِيلْ, maintenant il pose une question, pourquoi l'endroit où il y avait l'idole Al-Lat Al-Ta'if dans la ville de Ta'if, c'est devenu une mosquée.
قِيلْ لَوْ تُرِكَ هَذَا الْمَحَلُّ بِهَذِي الْبَلْدَةِ خُشِيَ أَنْ يُفْتَتَنَ بِهِ فَيَرْجِعُ إِلَى جَعْلِهِ وَثَنًا فَجَعَلَهُ مَسْجِدًا وَالْحَالَةُ هَذِهِ ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم.
Donc il dit pourquoi en fait ils ont fait de la mosquée, de l'endroit où il y avait l'idole Lat, ils en ont fait une mosquée. Il dit c'est pour éviter, parce que si on laisse l'endroit comme ça sans rien et la mosquée elle est ailleurs, les gens ils vont se souvenir de cet endroit comme quoi avant ils faisaient du polythéisme et tout, et donc peut-être ils vont plus tard être tenté de revenir à l'idole Al-Lat. Alors que là c'est devenu une mosquée, ça y est, Lat elle n'existe plus, on l'a oublié. Il dit c'est spécialement pour ça, exclusivement. Maintenant en vérité, qui c'est qui a fait de l'endroit de Ta'if, il fait une mosquée, il n'a pas précisé ici. Allahu a'lam. Ensuite il dit, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, remplis ton vœu, accomplis ton vœu. Il dit, celui qui explique,
Dalla ala anna al-wasf sabab al-hukm. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين.
Donc il dit, ça montre que c'est ça la raison du jugement, du hukm, c'est-à-dire le fait que ce soit interdit. La raison c'est ça, c'est quoi? C'est l'objet des deux questions du prophète. Quand il lui a dit, est-ce que cet endroit c'est un endroit où les gens sacrifiaient pour autre qu'Allah, ou plutôt non pardon, est-ce que c'est un endroit où il y avait une idole qui était adorée en dehors d'Allah? Et la deuxième chose, est-ce que c'est un endroit où il y a une fête des polythéistes? Le fait qu'après qu'ils ont répondu non, il dit alors accomplis ton vœu, ça montre que ces deux raisons, c'était ça, c'est la cause de l'interdiction pour les endroits qui concernent donc le fait soit qu'il y a un id des polythéistes dedans, ou un endroit où les statues ou les idoles elles sont adorées.
فَيَكُونُ سَبَبُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ خَلْوُ الْمَكَانَ عَنَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ.
Donc il lui a ordonné de remplir son vœu dans cet endroit, parce que cet endroit, il était vide de ces deux choses. Donc de l'adoration des idoles et des fêtes des polythéistes.
فَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي نَظَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِيهِ وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ لَمَنَعَهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فِي نِيَّتِهِ.
Donc il a dit, donc si à l'endroit il y avait eu l'endroit où l'homme il avait fait le vœu de sacrifier un chameau, s'il y avait une idole dedans ou alors une fête des non-musulmans, le prophète il aurait interdit.
وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فِي نِيَّتِهِ.
فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. Donc il lui a pas demandé c'est quoi ton intention pour voir s'il veut égorger pour Allah, sacrifier pour Allah. Donc ça prouve que ça, ça compte pas. C'est-à-dire le fait qu'il veut sacrifier sa bête pour Allah, c'est pas ça qui va lui rendre ça licite de faire ça dans ce genre d'endroit, dans les endroits où il y a des idoles ou des fêtes non musulmanes. Sinon le prophète il lui aurait demandé pourquoi tu le fais.
فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية فلما خلى من الموانع أمره أن يوفي بنذره وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية.
Donc aussi Abu Daoud il a rapporté que une femme elle était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui avait dit, donc c'est un peu la même histoire, j'ai fait le vœu de sacrifier à tel et tel endroit et c'était un endroit où les gens de l'avant l'islam ils sacrifiaient des bêtes, donc pour les idoles.
Qala li sanam, qalat la. Qala li wathan, qalat la. Qala awfi binadhrik.
Donc il a dit, est-ce que c'est les égorgements, donc j'ai dit pour une idole, en fait c'était pas pour une idole. Il a dit, est-ce que c'était pour une statue, c'est-à-dire que ces gens égorgés? Elle a dit non. Est-ce que c'était pour une idole? Elle a dit non. Et elle a dit, alors remplis ton vœu. Donc c'est comme dans le hadith qu'on a vu.
Walahu an maymunata binti kirdam qalat kharajtu ma abi faraitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faja'altu abduhu bi basari fadana ilayhi abi faakhadha yuqaddimuhu فأقر له ووقف فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من أوثان شيء من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بنا نذرت لله.
Donc là c'est la même histoire, ou alors une histoire qui ressemble, où un homme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait le vœu, si j'ai un enfant mâle, de sacrifier un chameau à tel et tel endroit. Et la femme elle a dit, qui rapporte, elle a dit, je crois il a dit 50 chameaux. Et là donc le prophète il lui a demandé, est-ce qu'il y a une idole dans cet endroit? Donc c'est à peu près la même histoire. Et lorsqu'il lui a dit non, il lui a dit, alors remplis ton vœu.
فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَثْبَعُهَا فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري فذبحها. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين.
Donc ça c'est pas très important par rapport au sens du hadith. Ensuite il dit فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. Il ne faut pas accomplir son vœu s'il concerne un péché. Donc il dit دل على أن أماكن الشرك
دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها أن تقصد العبادة فيها.
Donc ça montre que les endroits du polythéisme et des péchés, on n'a pas le droit de chercher à faire des adorations dedans.
وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
Et que donc il a dit wa anna hadha nadharu ma'siyatin law wujida fi al-makan mani'. Il dit donc si un endroit il y a quelque chose dedans qui empêche d'accomplir le vœu, alors le vœu lui-même il sera un vœu interdit. Donc regardez le raisonnement.
Wa ma kana min nadhri al-ma'siyati la yajuz al-wafa'u bihi bi ijma' al-ulama.
Or les vœux qui concernent une désobéissance, par exemple quelqu'un il dit je fais le vœu de tuer quelqu'un. Ça, c'est un vœu de désobéissance. Ça, c'est interdit par consensus des ulama. Tous les ulama, ils sont d'accord sur ça.
وَهَلْ فِيهِ كَفَارَةُ يَمِينَ.
Et est-ce qu'il doit faire une kafara pour expier son serment et son vœu?
عَلَى قَوْلَيْنَ.
Là, il y a une divergence entre les ulama en deux opinions.
أَحَدُهُمَا تَجِبُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ لَا نَظْرَ فِي مَعْصِيَةَ وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةُ يَمِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَهْلُ السُّنَنِ. واحتج به أحمد لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما لا يصح.
Donc une des opinions c'est qu'il faut donner une kafara, c'est-à-dire expier ce vœu comme on expie un serment. À cause du hadith qui dit, il ne faut pas faire de vœux concernant un péché, et le fait de l'expier, c'est comme on expie un serment. Donc c'est un hadith rapporté par Ahmed et les quatre Ashab al-Sunan. Et Ahmed, l'imam Ahmed, il a utilisé ce hadith pour dire qu'il fallait expier le vœu qui concerne même le vœu interdit. Donc on ne l'applique pas, mais on l'expie comme on expie un serment. Si ce n'est que, il dit ici, l'imam al-Tirmidhi et Abu Daoud, ils ont dit que le hadith n'était pas authentique. Qal al-Shaykh, ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة وكذلك مذهب أكثر السلف وهو قول أبي حنيفة وغيره. Et Cheikh al-Islam, donc Ibn Taymiyyah, il a dit le madhab de l'imam Ahmed, ce qui en apparaît, c'est qu'il faut expier ce genre de serment, et c'est l'opinion de la majorité des anciens et aussi d'Abu Hanifa. والثاني لا كفارة عليه لحديث الباب وحديث عائشة الآتي وهو مذهب مالك والشافعي وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة واختاره شيخ الإسلام. Et donc la deuxième opinion, c'est qu'on n'est pas obligé d'expier ce genre de vœux. Et la preuve qui le concerne, c'est le hadith qu'on a lu nous dans Kitab al-Tawhid. Et aussi le hadith de Aïcha qui viendra dans le chapitre suivant. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Et c'est ce qu'il a choisi Ibn Taymiyyah, rahimahullah. ولا فيما لا يملك ابن آدم. Il dit, donc dans le hadith, et il ne faut pas non plus faire de vœux dans ce que l'être humain ne possède pas. Donc dans l'explication, il dit كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان. Comme si quelqu'un disait, si Allah est guéri un tel qui est malade dans ma famille par exemple, alors je me dois, donc ça c'est un vœu, je me dois d'affranchir l'esclave d'un tel, pas son esclave à lui. Donc il fait un vœu concernant quelque chose qu'il ne possède pas. Ça c'est interdit dans l'islam. فَإِنْ إِلْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَا يَمْلِكُهَا وَلَا قِيمَتُهَا فَإِنْ شُفِيَ مَرِيضُهُ صَحَّ نَظْرُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ. Ensuite il dit, bon, ensuite il parle de l'authentification du hadith, et le chapitre suivant ce sera sur les vœux donc qui sont faits pour autre qu'Allah. Donc le vœu an-nadr, c'est comme si quelqu'un il dit, si par exemple je réussis mon examen, alors je dois faire 3 jours de jeûne. An-nadr en arabe, ça veut dire c'est s'imposer quelque chose, c'est que l'être humain il s'impose une adoration qu'Allah lui a pas imposée. Donc il faut bien comprendre, le vœu, il y a deux jugements, c'est-à-dire faire un vœu comme dire par exemple, et les vœux ils sont de deux sortes, le vœu qui est accroché à une cause, comme si tu dis si j'ai le bac il faut que je jeûne un jour. Ça, c'est un vœu qui est accroché au fait que tu es le bac ou que tu n'es pas le bac. Ou alors le vœu mutlaq, ça veut dire le vœu comme ça. Tu dis, je me dois devant Allah de jeûner un jour. Je fais le vœu de jeûner un jour. Donc ça, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déconseillé de faire ce genre de vœu. Et l'islam, il n'a pas, c'est pas une adoration que l'islam, il a poussé à faire. Ce que l'islam, il a poussé à faire, c'est qu'une fois que tu as fait ce genre de vœu, et qu'Allah, il t'a éprouvé par le fait de faire ce genre de vœu, alors il était obligatoire de le remplir. Donc l'adoration, c'est de remplir le vœu et pas de faire le vœu. Faire le vœu, c'est pas une adoration, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas poussé à le faire. Et ça, c'est une habitude plutôt des gens qui connaissent pas, c'est-à-dire les gens, ils aiment bien dire ça, dire des vœux, mais l'islam il l'a déconseillé. Et donc, mais une fois que tu as fait le vœu, alors là il faut que tu le remplisses, et ça c'est une adoration, parce qu'Allah il dit dans le Coran yufuna bin nadhr, dans des versets où Allah il a vanté les croyants, il a dit yufuna bin nadhr dans sourate al-insan, ils remplissent leurs vœux. Donc remplir le vœu, ça c'est une adoration. Donc on parlera de ça demain, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.